Voix nue. Cette semaine, Céline Lauzen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, un laboratoire carcéral.
Bonsoir Bernard Stiegler.
Bonsoir.
Voici le troisième soir qu'on se retrouve chez vous dans votre moulin. Alors hier et avant-hier, nous avons parlé de vos origines, de votre enfance, puis votre adolescence et vos jeunes années, vécues dans une période un peu sombre. On a compris comment votre parcours a été par la suite un peu fantasque, fait de bifurcations. Un destin qui vous a imposé de prendre des risques et finalement vous a conduit derrière les barreaux. Vous en prendrez pour 5 ans entre la prison Saint-Michel de Toulouse puis au centre de détention de Muret. De la prison, vous direz qu'elle a été le lieu possible pour une construction intellectuelle grâce à la lecture et la pratique de la philosophie, que la prison a été l'occasion de penser le monde hors du monde, d'exploiter le temps pour sculpter votre esprit et étudier la société dans ses arcanes à la lumière de Platon, Kant, Heidegger ou Derrida et bien d'autres. Mais en disant cela, est-ce que vous ne sublimez pas un peu trop ce passage de votre vie? Parce que tout de même, avec le Parti communiste, vous avez pu recevoir une démarche de pensée, une méthode, des outils intellectuels pour analyser, interpréter, inférer les phénomènes. Donc je me posais la question, sans cette formation de l'esprit préliminaire, est-ce que vous auriez connu le même sort en prison?
Ah, mais la réponse est clairement non, bien entendu, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je l'ai toujours dit. Hein. En fait, moi, je m'en suis sorti en prison parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, à commencer par le fait que je suis arrivé après les émeutes qui avaient eu lieu en 73 ou 74, je me souviens plus, des grandes, grandes émeutes en prison où il y avait eu des morts, là, beaucoup de morts. Et qui ont fait que il y avait eu des réformes dans les prisons. Donc je suis arrivé, je dirais, au moment le moins dur de l'histoire de la prison. Deuxièmement, il y avait un directeur de prison, franchement, qui était, je crois, intelligent. Voilà. Et vraiment motivé par le fait que on n'est pas là pour faire subir le maximum de peine aux détenus, mais surtout pour éviter qu'ils reviennent. Je pense qu'il y croyait vraiment. Je l'ai jamais rencontré, moi, mais par contre, j'ai vécu sa politique. Donc, troisièmement, Gérard Granel, je dirais que c'est même certainement la première raison, m'a énormément soutenu. Et ça n'arrive pas à tous les prisonniers. Je dirais que c'est absolument exceptionnel. Et puis, quatrièmement, en effet, j'avais une éducation, mais je dirais avant le Parti communiste, j'avais l'éducation de ma mère. Parce que ma mère, qui était une femme du peuple, hein, qui avait d'ailleurs connu vraiment la misère, elle, ma mère, elle croyait énormément à la culture. Et donc, elle lisait beaucoup déjà, pour commencer. Et elle avait une vraie culture littéraire, et du sérieux, quoi. Elle connaissait tout Balzac, tout Stendhal, tout Flaubert, etc. Elle connaissait Dostoïevski, Tolstoï, Giono, enfin bon. Et elle nous faisait lire, tous mes frères. Nous étions des lecteurs, voilà. Et nous adorions lire, voilà. Et elle nous en donnait l'exemple. Voilà. Et non seulement ça, mais elle achetait des disques. Moi, j'avais une culture musicale classique, parce que ma mère, elle n'était pas du tout amatrice de musique classique, mais elle pensait qu'il fallait le développer chez ses enfants. Donc, on avait des très bons disques de musique. Je connaissais Schubert, Beethoven, tout ça, Bach. Et d'autre part, elle avait acheté aussi une collection d'histoire de l'art. On avait toute l'histoire de l'art à la maison. Donc ça, c'était la première base. La deuxième base, c'était pas quand j'étais membre du Parti communiste, mais c'est quand j'étais à Sarcellois. Il y avait une mairie communiste, enfin plus exactement une mairie d'union de la gauche. Et à cette époque-là, eh bien, moi j'ai découvert par exemple Lorjou, qui était un disciple de Picasso, par une grande exposition à Sarcelles, Lorjou, extraordinaire, comme aujourd'hui on verrait au Centre Pompidou. J'ai découvert le théâtre, je disais l'autre jour, par la télévision française, et c'est vrai, grâce à Marcel Bluval notamment, mais aussi grâce à la politique du PC, voilà, qui chaque année organisait un festival de théâtre sous chapiteau. Voilà. Et donc, Après, sur cette base-là, je me suis politisé, comme j'avais expliqué, surtout contre l'extrême droite. Et puis ensuite, j'ai passé 7 ou 8 ans au sein du Parti communiste français, où là, j'ai appris aussi à parler, à argumenter, etc. J'écrivais des articles pour des journaux de cellules, comme on disait à l'époque. Et donc, oui, j'étais beaucoup mieux armé, je dirais, que la plupart de mes co-détenus pour faire face. J'avais pas peur de la solitude du tout. Donc,
D'ailleurs, vous allez militer pour avoir une cellule indépendante.
Ah, je vais pas seulement militer, mais je vais me battre.
De la
là, je vais me battre comme un chien. C'est-à-dire que ça, c'était le truc absolument non négociable. J'ai arrêté de manger. Je disais, tant que je serai pas seul en cellule, j'arrêterai. Je mangerai plus. Donc, bon, on m'a dit, vous allez au mitard. Moi, je dis, je vais au mitard. Donc, j'ai fait du mitard. Et après, ils m'ont ressorti parce qu'ils ont pas le droit de vous laisser au mitard plus d'un mois, etc. Donc, mais j'étais en QHS. J'ai vraiment connu tous les endroits, disons, de pénalisation interne. Mais moi, je m'en foutais de tout ça. Parce que ce qui m'apportait, c'était qu'on me laisse travailler. Donc, je voulais être seul pour pouvoir travailler. Enfin, quand je dis travailler, au départ, je voulais pas travailler, je voulais lire. Et puis, j'ai lu. J'adorais ça. Donc, j'ai lu. Il y avait une bibliothèque dans cette prison. Comme dans toutes les prisons françaises, il y a des bibliothèques. Ça fait partie de la réglementation.
Donc, vous lisez aussi parce que Gérard Granel vous apporte des livres et vous permet d'étudier en vous inscrivant aussi à l'université de Toulouse.
Tout à fait. Par ailleurs, Gérard m'a dit... Gérard Granel, c'était une figure. Et c'était quelqu'un d'assez entreprenant et parfois très colérique. Donc, il a débarqué chez le juge qui instruisait mon affaire en disant « Je veux avoir le droit de visiter ce détenu ». Alors, le juge lui a dit « Mais monsieur, vous ne pouvez pas ». Mais moi, il a fini par obtenir. En disant « Je suis le patron de la philosophie ». Il a réussi par obtenir un droit de visite d'avocat. Alors, qu'est-ce que c'est un droit de visite d'avocat? Ça veut dire qu'il pouvait rentrer, il n'y avait pas de grille entre lui et moi, et il me passait des bouquins. L'administration pénitentiaire laissait faire, voilà. Ça, c'est une chance. Aujourd'hui, à mon avis, c'est totalement impossible de faire ça. Donc, effectivement, ce qui a été formidable, c'est que j'ai pu me faire une bibliothèque, en fait. Voilà. Et donc, petit à petit, ma cellule est devenue un bureau avec une bibliothèque. Voilà. Et par ailleurs, en effet, j'avais une base de pratique, de lecture, de discussion, etc., qui faisait que finalement je supportais plutôt très bien la prison. Alors tout à l'heure vous avez dit quelque chose que je voulais relever, vous avez dit trop sublimé. Vous avez peut-être trop sublimé, vous disiez. Non, on ne peut pas trop sublimer. Le problème c'est qu'est-ce que veut dire sublimer ? Sublimer, ça veut dire transformer ses pulsions en investissement. C'est une expression, on peut l'employer évidemment, le mot sublimer, il existe en divers sens, mais moi je l'utilise au sens de Sigmund Freud, dans un texte de 1923, « Le moi et le ça ». Sublimer, ça veut dire transformer les pulsions en activité de savoir, en fait. Voilà. Alors ça peut être un savoir de jouer au football, ça peut être un savoir de jouer au maître, ça peut être un savoir élever ses enfants.
Mais vous allez lire et écrire?
Moi je vais lire... D'abord, je vais lire beaucoup, beaucoup, et puis je vais commencer à avoir l'ambition d'écrire, ce qui est une ambition que j'avais depuis très longtemps. Je voulais tout faire, moi, quand j'étais gamin, j'écrivais des poèmes, je faisais de la peinture, je faisais du théâtre, etc. Et je voulais explorer tous ces trucs-là, et là, je me suis dit, oui, au bout d'un mois ou deux de prison, je me suis dit, mais c'est génial, je vais pouvoir écrire. Je vais enfin pouvoir me mettre à... Voilà. Et j'ai effectivement commencé à écrire... Et au bout de 4-5 mois, je me suis aperçu que ce que j'écrivais n'avait aucun intérêt. C'est-à-dire que j'avais rien à dire, en fait. Et là, je me suis posé un problème. C'est pourquoi est-ce que ce que j'écris est nul? Et donc, j'ai décidé d'étudier la littérature. Donc, c'était l'époque où on sortait du structuralisme. Donc, c'était l'époque où Gérard Genette, par exemple, avait développé toute une théorie de ce qu'il appelait la poétique. Svetan Todorov avait fait toute une théorie de la lecture, etc. Ça me passionnait complètement. Et j'ai donc décidé de m'inscrire en linguistique pour faire de la linguistique générale et de la poétique. Donc, ma première année, c'était pas dédié à la philo, c'était dédié à la linguistique.
Vous vous inscrivez
à l'université. Grâce à Gérard Granel.
Alors que vous êtes...
Alors que je suis détenu, parce que à l'université de Toulouse, à l'époque, il y a un système de téléenseignement. Et par ailleurs, ça c'était un, comme on dit, un acquis de mai 68, on a le droit de s'inscrire à l'université si on n'a pas le bac, puisque j'ai jamais passé le bac, à condition de passer un examen. Donc, dès que je suis arrivé en prison, Gérard m'a dit, tu vas passer les EU, ça s'appelait, examen spécial d'entrée à l'université. Et en effet, j'ai passé ça. Ça a été, voilà. Je suis rentré en prison au mois de juin. Septembre, octobre, novembre, je me suis mis à travailler. J'étudiais l'histoire, la géographie, le français, l'anglais. Et voilà. Donc là, j'étudiais pour obtenir cet examen. Voilà. Et je me suis inscrit en linguistique. Mais très vite, étudiant la linguistique, j'ai découvert que la linguistique posait des problèmes, en fait, que les philosophes du langage avaient posé, et que en fait dès Platon on commençait à se poser des questions qu'on posait sur ce que c'est que l'évolution des langues, etc. Le grand penseur de cette question, c'est Humboldt au XIXe siècle, qui avait
le physicien,
non pas le physicien, son frère et le philosophe, voilà, et qui avait développé toute une question de philosophie du langage, disons. Et c'est ça qui fait que je me suis mis finalement à faire de la philosophie.
Comment on fait de la philosophie seul, quand on n'a pas eu une formation rigoureuse, parce que la philosophie nécessite de connaître beaucoup de vocabulaire. Quand on lit Kant, Heidegger, il faut disséquer chaque mot, chaque phrase pour comprendre.
Alors, j'ai quand même pas étudié tout à fait seul, parce que j'avais des cours de téléenseignement. Donc j'étais inscrit à des cours, j'avais 7 UV par semestre, comme tous les étudiants. Et tous les profs m'envoyaient leurs cours en photocopie. Je passais les examens. Donc j'étais pas vraiment seul. J'étais accompagné, mais à distance. Voilà. Et ben moi, je pense que c'est la meilleure manière. Parce que ça évite la fascination pour les grands profs. Parce que j'ai connu beaucoup de grands profs. Granel était un très grand prof, mais moi, je n'ai jamais vu enseigner Granel. Par contre, j'avais beaucoup d'amis qui l'avaient eu comme prof. À un moment donné, un de mes serveurs dans ce bar était un des étudiants de Granel. Et il me disait, Granel, c'est un prof extraordinaire. Après, j'ai vu de très, très grands profs. Derrida était un très grand prof. Lyotard était un très grand prof. De Santi, etc. C'était des profs extraordinaires. Mais c'est dangereux, ça. Parce que ça peut, d'un seul coup, vous fasciner complètement. Et moi, je pense que moins il y a d'intermédiaires entre le texte et vous, mieux ça vaut. Donc, on a besoin de profs, parce que c'est très dur de rentrer. La critique de la raison pure, c'est extrêmement difficile à lire. Donc, y entrer tout seul, c'est presque impossible. J'étais pas tout seul. J'avais des retours, je passais des examens, tout ça. J'avais en plus du contrôle continu, donc j'avais des dissertes à écrire. Ma première disserte faisait 33 pages tapées à la machine. Et le prof, c'était à peu près 4 ou 5 fois plus long, ou 10 fois plus long qu'une disserte normale. Voilà. Et le prof, je crois, il en avait vraiment, il devait se dire, heureusement que j'ai pas que des copies comme ça. C'était plutôt très long. Mais j'investissais à fond dans ces trucs-là. Voilà. Ce qui fait que je nouais une relation, du coup, avec les profs assez forte. D'une façon générale, j'avais des correspondances avec les profs, avec tous mes profs.
Privilégié, finalement.
Et finalement, j'étais très encadré, peut-être plus que les étudiants à l'université. Voilà. Et certains profs venaient me faire passer des examens à la prison. Voilà. Après la situation de la solitude carcérale, ça je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Passer à l'acte », ça crée ce que j'appelle un laboratoire phénoménologique. Ce qui m'a le plus inspiré dans la philosophie contemporaine, c'était la phénoménologie. La phénoménologie, c'est un courant philosophique de la philosophie allemande qui apparaît à la fin du XIXe siècle, qui est produite par un philosophe qui s'appelle Edmund Husserl, qui au départ d'ailleurs était un mathématicien, qui a étudié la philosophie parce qu'il voulait repenser les fondements des mathématiques. Et qui, c'était un philosophe d'une extraordinaire rigueur. Voilà. Il suivait l'exigence mathématique, je dirais, dans sa façon de penser. Donc c'est une philosophie très austère.
Analytique.
Analytique, mais pas au sens de la philosophie analytique américaine, mais effectivement très analytique, très 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 précise, et qui a mis au point ce qu'il appelait lui-même une méthode, quoi, qu'il appelait la méthode phénoménologique. La question de Husserl, c'était de reprendre la question de Descartes, c'est-à-dire de repartir de ce que Husserl va appeler l'ego transcendantal. Vous savez que Descartes, dans les méditations et la méthode, pose que la seule chose dont je ne puisse pas douter, c'est que j'existe. Voilà. Je peux douter de tout, je peux me dire, en ce moment je suis en train de faire une émission avec France Culture, mais peut-être parce que j'ai toujours rêvé de passer à France Culture, ou je sais pas quoi, tout ça peut être un rêve. Voilà. Mais y a une chose dont je ne peux pas douter, c'est que quand je rêve, je rêve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est irréductible. Voilà. Ergo sum. C'est cogito ergo, ego cogito ergo sum. C'est-à-dire, je pense donc je suis. Bon, tout le monde a appris ça. Tous les gens qui sont allés au moins en terminale ont appris que ça, c'est le début de la philosophie moderne. Husserl a repris cette position cartésienne, mais en la radicalisant, c'est-à-dire en disant c'est pas simplement une expérience de pensée à un moment donné que je vais faire, c'est ma façon de philosopher en permanence je vais produire ce qu'il va appeler une réduction phénoménologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je vais poser que tout ce qui m'entoure, en fait, ça peut être un leurre, ça peut être une illusion, et donc je vais réduire ce qu'il appelle la thèse de l'existence du monde. Je vais essayer de penser en me passant de l'idée que le monde existe. Et j'ai essayé de déduire à partir uniquement de mes ressources égologiques, dit-il, c'est-à-dire partant de mon ego. C'est pas l'ego au sens des psychologues, hein, c'est l'ego transcendantal, c'est-à-dire le sujet qui doute et qui ne peut pas, en doutant, douter du fait qu'il est en train de douter, c'est-à-dire je doute et donc je suis. Voilà. Il va radicaliser ce truc-là, il va appeler ça donc l'époquet transcendantale, la suspension de la thèse du monde. Moi, en prison, quand je lis ça, je me dis, mais moi, le monde, il n'existe pas, de toute façon. Parce qu'une cellule, c'est pas le monde.
Vous êtes dans un état de suspension du monde?
Je suis en dehors du monde. Ce qu'on appellerait dans le langage sociologique un paria. Voilà. Donc je suis en dehors du monde, complètement. Donc je suis de fait, à partir de là, je me suis dit, et ça, ça a été ma grande chance, je me suis dit, mais j'ai la chance extraordinaire d'être dans un laboratoire phénoménologique à plein temps. Et donc je vais pouvoir produire des expériences philosophiques unique dans l'histoire du monde. Husserl, lui, est obligé de faire des efforts pour suspendre la thèse du monde. Moi, de toute façon, elle est suspendue de fait.
De fait.
Voilà. Et à partir de là, je vais découvrir quelque chose. Je vais découvrir que, quand même, il reste quelque chose dans ce non-monde où je suis. Ça s'appelle les livres. Et c'est là que je vais découvrir Derrida, qui va accorder à l'écriture et aux livres une place tout à fait particulière. Voilà. Et lui, c'est lui-même un spécialiste de Husserl, hein. C'est un des traducteurs de Husserl, comme Gérard Granel. Ils étaient en classe ensemble, d'ailleurs, ils se connaissaient très bien. Et c'est comme ça que je vais me mettre à étudier Derrida. Voilà. Je vais découvrir que dans mon laboratoire phénoménologique, il y a quelque chose qui est irréductible, c'est le livre. Je vais théoriser le fait que s'il n'y avait pas de livre, je ne pourrais pas faire ce travail. Voilà.
Votre cure entre guillemets philosophique s'achève avec la fin de votre détention en 83. Granel, c'est lui qui vous sollicite à aller rencontrer vraiment Derrida, d'aller monter à Paris, à l'ENS, pour le rencontrer.
Alors ça s'est pas passé exactement comme ça. J'ai été condamné à 8 ans de réclusion criminelle, et quand on est en bonne conduite, patati patata, on a des réductions de peine, comme on dit, donc... En particulier, à partir de 4 ans et quelques mois, j'ai eu le droit à ce qu'on appelle une permission de sortie. Donc, parce qu'on prépare les détenus à retrouver la vie en leur autorisant une sortie de 3 jours. Peu de temps avant ça, Granel m'avait dit, écoute, le philosophe qui t'intéresse vraiment, c'est pas moi, c'est Derrida. Donc, tu vas lui écrire. Tu vas lui écrire de ma part en lui disant que parce que tu vas sortir de prison un de ces jours, il faudra que quelqu'un t'encadre pour que tu continues tes études, et ça sera pas moi, ça sera lui, parce que c'est sur ses travaux à lui que tu travailles le plus. Donc j'ai écrit à Derrida en étant extrêmement inquiet, parce que j'avais développé en prison tout un savoir de l'attente. Et moi, en prison, j'avais tout fait pour ne pas attendre. Ce qui peut arriver de pire à un détenu, c'est d'attendre. d'attendre la visite d'un avocat, d'attendre la visite de sa famille, d'attendre du courrier. Donc j'avais appris à ne rien attendre d'autre que de Platon, de Kant, de Husserl et de
Heidegger. Parce que vous avez une rigueur aussi, une gestion du temps très rythmée entre l'étude.
Oui, j'avais étudié en fait mon rapport au temps et j'avais construit toute une discipline très 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 stricte d'ailleurs, que j'impliquais, que je pratique toujours ici. Voilà. Et donc, quand Granel m'a dit « tu vas écrire à Derrida », je me suis dit « nom d'un chien, maintenant je vais attendre la réponse, il ne me répondra pas, il va me foutre la vie en l'air ». Bon, je lui ai écrit, 3 jours après, j'avais la réponse. Il a répondu sur le champ.
Écrire pour dire quoi? Pour demander quoi?
Ben, je lui ai expliqué que je travaillais depuis 4 ans à ce moment-là, que j'avais un projet philosophique, que j'envisageais de faire une maîtrise. À l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 1, ça s'appelait la maîtrise, que j'étais en train de finir une licence de philo, et je lui demandais s'il voulait bien devenir mon maître, enfin mon directeur de maîtrise. Et donc je lui expliquais mon projet, donc je lui avais envoyé une lettre, je sais pas, d'une dizaine de pages, assez précise. Voilà. Et il m'a répondu immédiatement, et il m'a dit « dès que vous sortez, vous venez me voir ». Voilà. Et donc, 2-3 mois après, l'administration m'a informé que j'avais une autorisation de sortie. Et de 3 jours. Et voilà. Donc je suis sorti du centre de détention de Muret. C'est Christiane Bory qui est venue me chercher et qui m'a emmené à l'aéroport de Blagnac. De Blagnac, j'ai atterri à Orly. Et d'Orly, j'ai pris le RER et je me suis rendu rue d'Ulm. Et donc, ma première sortie de prison, je me suis retrouvé dans le bureau de Jacques Derrida, au premier étage de la rue d'Ulm. Et quand je suis rentré dans son bureau, en plus, nous avions rendez-vous, il y avait Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarthe. Donc je suis d'un seul coup, j'ai plongé, comme ça, dans la philosophie contemporaine. Presque.
Vous voilà. Passez de la prison voilà. Au bureau de l'ENS.
Voilà.
Quel était le projet alors?
Ben, il n'y avait pas vraiment de projet. Le projet, c'était de faire connaissance, c'était de discuter avec Derrida. Du coup, j'ai discuté avec Derrida, avec Jean-Luc et avec Philippe. Ils sont devenus des amis après. Et voilà. Et ben, ça a été assez formidable. Un an plus tard, j'étais libéré. Un peu plus qu'un an. Hein. Et entre-temps, Jacques Derrida avait créé le Collège international de philosophie. Quand j'étais libéré, il m'a demandé si j'avais pas envie de faire un séminaire. Voilà, je me suis inscrit en maîtrise, pas avec lui d'ailleurs parce qu'il n'avait pas ce qu'on appelle habilitation à diriger des recherches, donc il m'a dit inscrivez-vous avec quelqu'un d'autre, et là je suis allé voir Jean Toussaint de Santy, qui était aussi un ami de Granel et qui était un très très bon philosophe, un grand spécialiste de la phénoménologie, et donc j'ai fait ma maîtrise avec de Santy. Voilà. Mais voilà, à partir de là, j'ai cultivé une relation très 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 suivie avec Derrida, qui a duré jusqu'à sa mort en fait, avec des périodes un petit peu de creux. Il est ensuite devenu, parce qu'entre-temps il a passé son habilitation, il est devenu mon directeur de thèse.
Vous passez votre thèse d'ailleurs beaucoup plus tard, en 1993.
Oui, 12 ou 13.
Ouais, 10 ans
plus tard.
C'est une période intéressante, parce que c'est juste avant l'avènement du web.
Oui.
Et votre thèse portait sur quel sujet? Et est-ce que ça préfigurait un peu les problématiques avec l'avènement du web et la transformation des sociétés?
En effet, ça les préfigurait tout à fait, puisque dans cette thèse qui a été publiée en partie, le premier volume a été publié sous le titre « La faute d'Épiméthée ». C'est vraiment ça, c'est vraiment un travail essentiellement sur Heidegger et la question du temps. Où j'essaie de montrer que bah, justement Heidegger et Husserl ont oublié les livres, voilà, que moi j'ai trouvé dans mon laboratoire, et que donc il faudrait les théoriser, et que je m'appuie beaucoup sur Derrida pour ça. Mais aussi, j'essaie aussi d'aller un petit peu au-delà du point de vue de Derrida. Et là, dans la deuxième partie, je généralise, je disais que la question du livre, c'est d'abord la question de la technique, et de la mémoire externe. Et là, je m'appuie énormément sur André Leroy-Gourhan, l'anthropologie préhistorique de Leroy-Gourhan. Et ça m'amène à faire toute une théorie, je dirais, de l'évolution de l'histoire de la mémoire, y compris des médias audiovisuels. Et avant de soutenir ma thèse, 6 ans avant, 7 ans avant même, lorsque Derrida avait cédé la place de président du Collège de philosophie à Jean-François Lyotard, Lyotard était devenu mon directeur de DEA. Je m'entendais très très bien aussi avec Lyotard. Et avec Lyotard et le ministère de la Recherche, finalement, j'avais obtenu un crédit pour faire un travail de fond sur les enjeux de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. C'était le début du Macintosh, c'était le début de ce qu'on appelait la micro-informatique, c'est-à-dire le fait que des gens aient des ordinateurs chez eux, ce qui était très 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 nouveau à cette époque-là. Parlons pas de smartphone ou de choses comme ça, ni de web, ni même d'internet, ça n'existait pas encore. Mais par contre, moi je m'intéressais beaucoup à ça, et j'ai toujours voulu que ma pratique philosophique soit liée à des pratiques, je dirais, sociales, économiques, techniques au sens courant du terme. Et donc, moi-même, je suivais de très très près ce qui se passait en informatique. J'avais un ordinateur et...
Par ailleurs, vous avez fait un stage très jeune à ce qu'on appelle aujourd'hui l'INRIA, qui n'était pas...
Oui, en effet. J'avais eu une formation d'analyste programmeur en 1972, je crois. Voilà. En effet. Donc, j'avais une espèce de formation, ce qu'on appelle le calcul opérationnel et des choses comme ça. Qui m'avait un petit peu facilité la compréhension des questions d'informatique. Et en 1985, la direction de la prospective du ministère de la Recherche m'a confié une étude. Cette étude, c'était en 84. J'ai remis le résultat en 85. Et là, il y avait Derrida et Lyotard m'ont dit, on va faire un colloque autour de cette étude. Donc on a fait venir plein de gens, y compris Jean-Luc Godard, beaucoup beaucoup de gens. Et il y avait des gens du Centre Pompidou, dont le président du Centre Pompidou, et toutes sortes de personnalités. Et en fait, le président du Centre Pompidou m'a proposé de faire une exposition à partir de ce rapport. Avec Melot, qui était le bibliothécaire de la BPI. Voilà. Michel Melot, je ne trouvais plus son nom. Le président du Centre Pompidou m'a comme ça ouvert cette possibilité. J'ai fait cette exposition. Et cette exposition, donc, qui a été ouverte en 1987, 6 ans avant ma thèse, eh bien, elle soutenait que, au 21e siècle, puisque c'était la question que m'avait posée le Centre Pompidou, comment évolueront les bibliothèques au 21e siècle? Moi, j'ai répondu, j'en sais rien, mais j'aimerais bien que ça évolue comme ça. Et j'avais expliqué que des réseaux allaient se développer, que des mémoires numériques allaient se développer et que un jour tous les gens auraient des ordinateurs avec eux, etc., etc., reliés entre eux. Je savais que ça existait Internet à cette époque-là. Ça n'existait pas en Europe, mais ça existait aux États-Unis. Et en effet, dans ma thèse, la deuxième partie portait sur ces questions de l'évolution des technologies. Et c'est la raison pour laquelle j'ai publié ce livre qui s'appelle « La désorientation », qui a été publié en 1996, et alors là, entre-temps, le web était arrivé. Donc j'ai actualisé ma thèse dans la publication du livre avec le web.
L'évolution technologique, on en parlera demain et après-demain. Merci, Bernard Stiegler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Lauzon avec Bernard Stiegler. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.